Bienvenue sur Horizon. Quand un bouleversement offre de nouveaux possibles. Une émission présentée par Justine et RL, un mardi par mois, de 20h à 21h, sur le 103 FM de Radio Campus Angers.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue sur Horizon. Aujourd'hui, nous accueillons Lou.
Bonjour.
Et je suis avec RL.
Bonjour.
Lou a grandi à Paris, c'est au lycée qu'elle commence à se poser la question de son genre. Aujourd'hui, elle est à l'école des Beaux-Arts à Angers et elle va nous raconter comment le drag show a bouleversé sa vie.
Horizon, un mardi par mois sur le 103 FM de Radio Campus Angers.
Lou, t'étais quel genre d'enfant ?
De ce que je me souviens et de ce que ma famille me raconte, j'étais un enfant plutôt souriant. Quand j'étais tout bébé, je faisais tout le temps des sourires. J'avais des grosses joues aussi. Et je dirais que j'étais assez extravertie, énergique quand j'étais avec mes amis ou genre en famille, en mode petit clown. Et un autre aspect, un peu plus dans la lecture où d'un coup, je me calmais direct et j'étais un peu dans mon petit monde. Voilà.
Ok. Quand t'étais un petit clown, c'était pour faire rire ?
Oui, c'était surtout avec ma sœur. On est assez proches. Et du coup, c'était un peu pour faire rire, faire le pitre à table. J'avais avec la nourriture, un peu ce genre de choses. Et voilà. Et anecdote, je me souviens aussi que je ramassais beaucoup de trucs et que j'avais toujours 3000 trucs dans mes poches. Donc, j'étais un enfant avec beaucoup de choses dans ses poches. Voilà.
Et dans la lecture, tu lisais quel genre des romans, des livres, enfin des BD.
Beaucoup de BD, parce que mon père a beaucoup de BD, du coup c'était surtout ça, et pas mal de romans aussi. J'allais à la bibliothèque, et un peu au fur et à mesure, quand j'étais plus au collège, je faisais un peu la librairie de la maison. Genre ma sœur, elle lisait souvent les livres que je lui recommandais, ou ma petite sœur, parfois je trouvais des trucs aussi pour elle et tout ça.
On l'a annoncé en introduction. C'est au lycée que tu commences à te poser la question de ton genre et tu commences à t'intéresser à la communauté LGBT. Est-ce que tu peux nous parler de cette période de ta vie et comment tu as vécu le lycée ?
Oui, bah je dirais que c'est fin collège et surtout sur le lycée. Enfin, au collège, je m'intéressais plus à des questions féministes et en fait, au fur et à mesure, ça m'amenait à m'intéresser sur la communauté LGBT. Et petit à petit, plus je m'y intéressais, et plus c'était moins quel sujet de société intéressant, mais plus peut-être que je m'y reconnais dedans, et peut-être que ça parle un peu de moi. Et du coup, c'est surtout, comment je pourrais dire ? Bah, j'ai découvert un peu, déjà j'ai commencé à parler avec plus de personnes LGBT, personnes trans, j'ai découvert ce que c'était. Et il y a des définitions ou des choses qui faisaient pas toujours sens pour moi ou qui étaient un peu un inconfort ou un blocage. Et d'un coup, il y a eu des mots dessus. Donc, par exemple, je me dis comme personne non-binaire. Et genre, dans un peu mes recherches, mes interrogations, mes découvertes de tout ça, il y a eu des définitions, des mots posés où d'un coup, ça met des trucs sur quelque chose que tu t'étais pas rendu compte qu'il y avait une incompréhension, et d'un coup, ça le nomme, ça l'éclaircit un peu. Donc, voilà.
Et comment ça se passe pour toi ? Enfin, est-ce que tu as eu de l'aide ? Est-ce que c'est des rencontres qui t'ont permis d'avancer sur ces questions-là ?
C'était surtout pas mal de choses, finalement, d'informations que tu peux trouver sur les réseaux, sur des comptes Instagram plus ou moins militants ou d'éducation. Et ça va être aussi des discussions avec des amis qui grandissent, le début des relations, et aussi me rendre compte que plusieurs personnes de mon entourage avaient aussi les mêmes questionnements, et des meilleurs potes depuis longtemps qui découvre aussi et leur sexualité et leur rapport au genre et s'affirme un peu plus. Donc c'était vraiment un mélange. Il y avait aussi des assos en ligne, par exemple France Genre, qui est une asso avec beaucoup de ressources pour les personnes trans. Mais ça mène aussi à plein d'espaces de discussion et plein de personnes de différents âges, avec plein de vécus, et avec lesquels tu peux comparer, voir ce qui te parle le plus, comment parler, comment aussi tu peux te sentir plus à l'aise avec toi-même, comment tu peux t'affirmer face aux autres. Mais du coup, c'était surtout dans mes cercles amicaux où... voilà. Et c'est vrai que c'était quelque chose que j'ai gardé un peu pour moi, qui était un peu plus compliqué. J'en ai pas du tout parlé à mes parents. J'en ai parlé après le lycée. Et c'est une conversation qui est pas encore facile et que j'ai un peu laissé sur le côté pour le moment.
Ok. Je pense qu'on y reviendra un peu sur la question de la famille. Mais est-ce que tu peux me parler un peu de ta période lycée, du coup? Comment tu traverses cette période scolaire-là, tout en te posant ces questions de genre, d'identité?
C'est vrai que le lycée, ça a été... en fait, au fur et à mesure du lycée, c'est la partie pas très fun, mais j'ai eu un peu de l'anxiété qui a commencé à se développer. Qui était vachement... Enfin, autour au début de performance scolaire, et ensuite ça s'est un peu généralisé. J'étais un lycée qui était assez demandant, c'était le lycée Henri IV à Paris, et en fait, au fur et à mesure, j'avais toujours un bon niveau, mais j'avais l'impression de jamais faire assez, ou qu'il y avait une constante... Enfin, je mettais beaucoup de pression... jusqu'à un point où, en terminale, j'ai fait plusieurs crises de panique, de pleurs, un peu de mental breakdown au contrôle. Et c'est là que je me suis dit que, en fait, ce qui s'était installé un peu petit à petit et sans vraiment m'en rendre compte, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment un souci ou un truc de santé mentale à prendre en compte. Et où j'ai vu l'infirmière scolaire et ensuite des psys, etc. Donc voilà, c'était un peu l'évolution du lycée. Et c'est vrai que du coup, ça a aussi... je dirais pas exactement, genre j'ai toujours été intéressée par l'art, mais ça a aussi joué sur mon choix de parcours et sur comment j'ai réfléchi au post-bac, et dans quel environnement de travail j'avais envie de me retrouver, dans quel type de pédagogie. Et c'est vrai que dans l'art, il y avait un intérêt, je veux dire, de la matière et tout. Et il y a aussi un rapport au travail qui est un travail d'atelier, un rapport au prof, à la recherche, qui est une recherche plus personnelle et moins dans une réponse d'exercice ou d'excellence, etc. Et donc, je pense que ça a aussi joué sur mes choix post-bac.
Ok.
Voilà.
Et ça se passe comment après, pour la suite? Donc, tu intègres l'école des Beaux-Arts Angers.
Mm-hmm.
Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette partie-là de ta vie?
Je dirais que c'est... Ça résout pas tous les problèmes, mais c'est quand même... Enfin, je me suis dit que c'était quand même des études qui me plaisent et qui juste quand même plaisent encore, donc c'est assez chouette. Je dirais que ça... En tout cas, ça m'a laissé un peu plus d'espace pour y réfléchir et pas juste être dans le faire et dans le faire sans réfléchir. Mais ça amène aussi d'autres complexités de la vie d'adulte, du fait d'apprendre à vivre seul... d'apprendre à prendre soin de soi, d'apprendre à se faire à manger, des tâches quotidiennes. C'est un peu tout ça. Mais en même temps, ça m'a amené beaucoup de liberté, beaucoup aussi forcément d'espace pour m'habiller, tester des choses de manière beaucoup plus libre. Donc ça, c'est très chouette aussi.
Ok. Et est-ce que cet environnement-là, il t'a permis aussi une forme d'émancipation dans... ton identité, ou c'est deux choses qui sont vraiment éloignées?
Je pense que ça a joué... Enfin, disons que, en fait, la partie du lycée, c'est vraiment une partie où je me suis posé plein de questions et où j'étais un peu aussi en découverte de ce que c'était, de ce que je pouvais aussi m'autoriser à être ou pas. Donc j'avais plein de questions et je m'enseignais tout ça, j'étais un peu la tête dedans. Et ensuite, comme j'en ai parlé à mes amis, et de manière générale, tu vois, dans l'environnement des Beaux-Arts, c'est quand même un peu plus... facile de parler de transidentité ou de coming out, ou de manière générale d'être gay, etc. Donc, c'est vrai que mon entourage a plus facilement utilisé les bons pronoms, se référer à moi et me considérer comme moi je me voyais. Donc, c'est sûr que ça permet de aussi souffler un peu sur ça et de se sentir accepté. Et du coup, je pense que ça a joué. Et il y a aussi le drag qui est rentré en compte dans ma vie avec l'arrivée à Angers. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Et c'est aussi toute une autre partie d'expérimentation autour du genre et autour de son identité. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Si, complètement.
Ça va.
Et donc aujourd'hui, tu te poses toujours ces questions-là d'identité ou d'une autre manière peut-être ?
Bah, je pense que j'en parlais récemment avec d'autres potes où genre, pour moi, je trouve que le genre et la identité de genre a pas de sens, ou en tout cas, je m'y reconnais pas et j'arrive pas à... Il y a une partie, c'est... Je sais pas si je vous donne des définitions. Enfin, il y a une partie, je trouve, dans la transidentité qui est un peu de l'ordre du ressenti, qui est pas un ressenti que personnel, parce que bah, forcément, il y a une communauté, il y a plusieurs personnes qui le ressentent, mais qui est parfois assez dur à exprimer. Il y a des choses qui cliquent, genre par exemple le fait que on te genre d'une certaine manière, ou le fait que tu t'autorises à te voir d'une certaine manière et à dire, ok, mais en fait, si le genre féminin, ça me convient pas, ni masculin, j'ai le droit d'exister ailleurs et de créer mon propre, ma propre petite case ou ma propre ouverture. Et je me suis perdue, mais qu'est-ce que tu veux dire?
Est-ce que tu te poses toujours autant ces questions-là d'identité,
oui,
ou d'une autre façon? Je sais qu'on avait parlé un peu tous les deux du rapport au corps, par
oui,
exemple.
Bah, c'est ça. Je pense que d'un point de vue un peu identité, de définition et d'un truc un peu plus théorique, je suis à peu près stable. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres aspects dans la transidentité qui va être plus le rapport au corps, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais moi, c'est un peu quelque chose que j'ai mis un peu de côté pour aussi les autres problèmes de santé mentale, de gestion d'études qui ont pris beaucoup de place. Et j'étais un peu en mode, bon, je vais mettre ça de côté. Mais c'est vrai qu'il y a, dans l'intensité, il y a aussi la dysphorie ou l'euphorie de genre, qui est parfois liée à comment tu vois ton corps, comment tu as envie qu'il ressente. Et moi, ça, c'est des trucs que j'ai pas trop réglés encore avec moi-même. Je sais pas encore... Enfin, je me pose encore beaucoup de questions sur cet aspect-là. Il y a des moments où j'aimerais bien avoir un corps peut-être plus androgyne ou... peut-être commencer à la testostérone, etc. Mais j'ai encore beaucoup du mal à savoir ce que je veux vraiment. Et c'est aussi, pas mal de questions. Il y a des choses qui sont réversibles, mais d'autres pas. Donc c'est quand même des décisions à prendre importantes que pour l'instant, j'ai pas encore résolues, on va dire.
Ok. Et j'ai plein de questions là qui me viennent aussi sur les formes de langage.
Mmh.
Donc d'abord il y a les pronoms,
mmh,
et aussi tous les termes que tu viens d'utiliser par rapport au corps.
Oui.
Est-ce que tu peux définir un peu ça, à quel point c'est important, et aussi ce que ça signifie ou ce que ça apporte aussi
donc. Ouais, je vais essayer de... Parfois j'ai plus ou moins les bons termes suivant les jours, mais je vais essayer de te faire un petit... En gros, si on prend le principe de transidentité, la définition, parce que c'est vrai qu'on en parle mais qu'on ne l'a pas trop défini, c'est une personne trans, c'est une personne dont le genre ne correspond pas à celui assigné à la naissance. Donc en gros, quand on parle de genre assigné, c'est que les docteurs ils sont en mode, ok, bon, vagin, ou etc. Et ça va être égal à tel genre. Sachant qu'il y a aussi les personnes intersexes qui existent, qui sont des personnes qui ont... des attributs sexuels primaires ou secondaires qui sont différents, ou qui sont un mélange, ou qui ne sont pas purement binaires. Mais ils vont aussi avoir des genres assignés. Donc en gros, tu as le genre qu'on t'assigne à la naissance, et il y a des personnes pour qui leur genre ne correspond pas à celui-ci. Donc là, on va parler de personnes trans. Sachant que, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois, le terme trans, pour moi, il est assez englobant, c'est un peu une ombrelle. Et ensuite, il y a les personnes trans, donc les femmes trans, les hommes trans, mais je trouve que la non-binarité, ça rentre aussi dedans. Parce que même si c'est pas un passage complet de l'autre côté, entre guillemets, c'est quand même le fait de ne pas se reconnaître dans le genre assigné. Et ensuite, concernant les termes plus de dysphorie et d'euphorie de genre, ça va être, pour l'euphorie, ça va être une joie ou un moment où d'un coup on est en accord ou tels éléments, donc ça peut être Ça peut être soit la manière dont les gens parlent de toi, ça peut être la manière dont les gens te genrent, ça peut être le fait de te laisser pousser les cheveux, d'avoir les cheveux longs, ça peut être la manière dont tu t'habilles, ça peut être des opérations de réassignation de genre, donc c'est comme ça qu'on appelle. Donc, par exemple, ou une thérapie hormonale. Donc, par exemple, une femme trans prendre des hormones, donc des œstrogènes, avoir les seins qui poussent, avoir la répartition des graisses différentes, etc. Donc, ça va être plein d'éléments qui peuvent être soit sociaux, soit corporels, qui vont te procurer de la joie et te sentir en accord avec ton identité de genre. Et la dysphorie, du coup, ça va être l'autre revers, c'est-à-dire une dissociation, un désaccord, parfois une certaine douleur à avoir des éléments qui ne correspondent pas et qui dissonnent avec ton identité de genre. J'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à aller, là je vous le fais un peu en sauvage, mais n'hésitez pas à aller regarder des ressources plus spécifiques sur internet ou dans des librairies, parce que c'est dit de manière très claire, il y a plein de ressources. Voilà.
On pourra mettre peut-être dans la description de l'épisode des sites, si t'en as en tête. Tu pourras nous envoyer ou là, les dire au micro.
Mais... Carrément. Là, le premier truc que j'ai en tête, parce que je suis restée longtemps dans cette asso, c'est France Genre. Ils ont un site aussi, des définitions bien faites, des PDF. C'est assez limpide. Et sinon... en compte Instagram, peut-être Lexi. Je sais pas si... Comment ça s'appelle son autre compte ? Bon, je vous donnerai les trucs.
Ok, merci.
Voilà, voilà. Et puis sinon, Wikipédia. Hein.
J'ai l'impression que quand on parle, il y a vraiment une notion de s'écouter, de bien-être. Et tu as utilisé ce terme joie.
Mm-hmm.
Et... En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément... Enfin, qu'on s'écoute peut-être pas assez et que du coup, dans la communauté LGBT ou dans cette recherche d'identité, t'es obligé de passer par une écoute de ton corps, même de tes envies pour être sur une forme de bien-être.
Bah, c'est un peu vrai. Et en plus, j'ai parlé de ça parce que moi, ça a été assez vrai pour moi. Mais souvent, il y a beaucoup de... Enfin, les parcours trans dans les médias, c'est vachement lié à la souffrance. Et c'est vrai aussi, enfin, il y a aussi des difficultés, mais qui est souvent plus lié à de la discrimination qu'autre chose. Et c'est vrai que c'est important de dire... beaucoup de gens parlent de la dysphorie. Avant, la dysphorie, c'était considéré comme une maladie. Avant que la transidentité soit dépsychiatrisée, c'était considéré comme un symptôme de, le fait d'être trans. Donc en fait, ça a été vachement focus sur, ok, il y a une telle douleur d'être dans un corps qui ne correspond pas, etc. Et un gros focus médical sur le corps, ce qui existe aussi. Mais l'autre revers de ça, c'est aussi l'euphorie, et c'est aussi la joie, et c'est aussi le fait de trouver des mots et d'être en accord avec soi-même. Donc pour moi, cet aspect de joie, ou cet aspect de effectivement prendre le temps de prendre soin de soi et de réfléchir sur soi, c'est une grosse partie de faire son coming out à soi-même aussi. Et moi, je sais qu'un des trucs qui m'a fait réaliser, c'est par exemple porter un binder pour la première fois. J'étais avec un pote et c'était des essayages gratuits par une asso. Et je me souviens que c'était... j'étais trop heureux. Et j'étais en mode, pourquoi se refuser des choses qui te rendent heureux et qui te font comprendre des choses sur toi, quoi.
On va peut-être du coup revenir sur la question de la famille. Est-ce que tu es d'accord pour nous en parler ? Comment ça s'est passé un peu ? Pour toi, tu as dit que c'était quand même la partie la plus compliquée.
Je dirais que c'est... Je pense que je vais en parler, mais je vais peut-être pas m'étaler. Je dirais que c'est un peu en cours de construction, en chantier. Je sais que mes parents, la question de... Ils ont toujours été très, très acceptants sur... tout ce qu'on fait sur nos envies de vie et tout, il n'y avait pas de problème. L'homosexualité, ils ont intégré, il n'y a aucun souci, c'est pas trop un sujet. Mais je sais que la transidentité, c'est plus compliqué. Déjà, c'est un sujet plus récent dans le débat public. Et aussi, c'est un sujet moins connu et qui touche davantage à l'identité de la personne plus que vers qui elle aime ou pas. Et ça touche aussi, dans une certaine extension, au corps. Et en tout cas, c'est un sujet que connaissent beaucoup moins mes parents et qui, je pense, les effraie et les touche un peu plus dans... Je sais pas ce que ça fait résonner en eux. Donc, en tout cas, j'ai eu... Et puis moi, j'avais assez... Enfin, c'est quelque chose pendant longtemps, j'avais du mal à mettre des mots. Enfin, c'est un peu confus. La non-binarité, c'est pas hyper clair. Je suis pas en mode, depuis tout petit, je savais que j'avais envie d'être un garçon et machin, etc. Et donc, il y a un peu ces zones où il y a des choses que je sais et puis il y a des choses où j'ai pas toutes les réponses juste parce que j'ai pas fini ma vie et que voilà. Et donc, dans les discussions avec mes parents, ça a été un peu plus compliqué. Et ma mère a réagi de manière assez... émotionnel, je pense, au truc, et on s'est un peu engueulé les deux fois où on en a parlé, et c'était des mots au final assez durs. Donc comme les dernières discussions n'en a pas eu beaucoup, c'était plus épuisant pour moi et ça a plus fini en engueulade que sur une vraie discussion. J'ai un peu mis ça de côté, donc là ça fait 2 ans que j'en ai pas parlé, je pense. Le temps passe vite et j'ai du mal à m'en rendre compte, mais en fait je pense que ça fait 2 ans qu'on en a pas reparlé de manière frontale. Et donc voilà. Ce qui est un peu dommage parce que j'avais décidé de leur en parler parce que je savais qu'ils m'acceptaient sur tout le reste de ma vie. Et du coup, en fait, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que quand tu parles à tes proches de ton identité, c'est parce que tu veux les inclure, parce que t'es en mode « ça fait partie de moi ». Donc j'ai envie que tu le saches, j'ai envie que tu me connaisses, j'ai envie que tu m'accompagnes dans ma vie en sachant ça. Et c'est un peu un gage de confiance. Et c'est pas du tout une recherche de s'opposer, de faire du mal, d'être en confrontation. Donc voilà, donc je pense que c'est ce qui a pas trop été compris. Mon père, c'était un peu plus... Globalement, je discute moins avec mon père. Donc il était un peu plus en retrait. Et un peu plus à attendre la réaction de ma mère. Et il était un peu juste en mode de, bon, tant que tu fais pas ça pour un effet de mode... Genre, sois sûr que c'est pas un effet de mode, etc. J'étais en mode, ok.
Ok.
On peut faire le tableau. Ce qui est un peu triste, mais je trouve que c'est... Tout le reste, c'est bien, mais là, c'est la petite... c'est le petit endroit de... De conflit,
ouais.
De confrontation avec eux.
Ouais. Bah, c'est vrai que... Je sais pas, j'espère que... Dans la discussion, c'est clair, mais c'est vrai que nous, en tout cas au Beaux-Arts, on est beaucoup confrontés à ces questions-là. Et je sais pas si tout le monde a cette sensibilité-là. Et je pense qu'il y a un truc aussi qui est très générationnel.
Mmh. Oui, complètement.
Ouais. Et que, en tant que parent, c'est parfois... Ça peut être difficile d'entendre, quoi.
Mmh. Oui, et puis c'est aussi des projections que tu fais pour ton enfant... Où d'un coup ça change la manière dont tu te projetais dans sa vie, dont t'envisageais son avenir. Et ça fait peur parce que c'est aussi des sujets pas connus. Comme tu dis, c'est vachement générationnel et c'est vachement aussi dans certains milieux. Enfin, tu vois, Beaux-Arts, c'est un truc qui est vachement parlé. Mais je pense qu'il y a d'autres milieux même de notre. Mais quand même, c'est plus parlé avec de notre génération. Et puis, il y a aussi le truc où. Bah, c'est vrai que quand t'es LGBT, ça fait peur, t'es discriminé, t'as quand même plus de difficultés dans la vie. Donc, je pense que quand t'es parent, c'est aussi effrayant pour cet aspect-là. Où t'es en mode, t'as pas forcément envie que ton enfant ait une vie un peu plus dure que les autres. Mais c'est pas en mettant le sujet sous le tapis que ça arrange ou que ça rend les choses plus douces. Donc voilà, voilà.
Pour revenir peut-être sur un point plus positif, il y a quand même quelque chose qui t'a permis cette émancipation,
mm-hmm.
cette forme d'émancipation d'identité, c'est le drag show.
Mm-hmm.
Comment ça rentre dans ta vie? Est-ce que tu peux en parler un petit peu?
Oui, avec plaisir. du coup, le drag show, en fait, quand je suis arrivée donc, au Beaux-Arts d'Angers, il y avait le collectif La Wig qui tout juste commençait à se former. Donc, je l'ai rejoint assez vite. Et donc, c'est un collectif de personnes qui voulaient faire du drag. Donc, le drag, je ne sais pas s'il y a besoin de le définir.
Peut-être, ça peut être bien.
Ok. Du coup, c'est un art, surtout un art de scène. Le principe, c'est de jouer avec les codes de genre et de les incarner et d'en faire plusieurs choses. Donc, ça va être incarner les codes de la féminité de manière exagérée, soit pour en jouer, soit pour s'en moquer, soit pour mettre une... faire un commentaire, en fait, sur certains aspects de la société, soit pour, à des moments, l'honorer d'une certaine manière. Il y a des drag queens, par exemple. Donc souvent, historiquement, c'est, par exemple, des hommes gays qui vont incarner un personnage de femme ou incarner des codes de la féminité. Ça vient des communautés afro-américaines. Donc c'est quand même important, de la ballroom, etc. Donc voilà, donc il y a des drag queens, des drag kings, incarnés les codes de la masculinité, et aussi des drag queer, donc ça va être plus joué sur un mélange des codes de genre, des drag créatures, donc ça va être plus chercher vers le bizarre, l'étrange, l'alien, la créature, drag freaks, des pans de la culture club kid, voilà, je lance des mots, vous pouvez aller chercher. Donc ça, c'est le drag. Et du coup, souvent, ça s'incarne dans des shows, des drag shows. Souvent, un truc classique, c'est lip sync. Donc c'est faire semblant de chanter une chanson et l'incarner, être dans des costumes... dans une mise en scène pour rejouer cette musique. Voilà.
Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta première scène? Est-ce que tu te souviens?
Oui, c'était avec l'Université d'Angers, d'ailleurs. Dis donc. Et il y avait un talent show et les organisateurs voulaient un drag show à la fin. Donc, ils nous avaient demandé, ils avaient fait un peu un appel à les drags qu'avaient envie de tester. Et du coup, c'est cette première scène où j'ai testé le drag, et c'était super. Et j'avais fait sur Fuck You. Voilà, avec des petites images de la Macronie et de militantes transphobes à déchirer sur scène, c'était super. Je sais qu'on avait parlé de comment je suis venue au drag. Je dirais que c'était un peu au lycée, j'ai aussi acheté du make-up et des choses un peu couleurs et tout ça. Et j'ai commencé à tester des maquillages colorés, à tester ces choses-là le soir avant d'aller dormir dans ma salle de bain. Et j'ai toujours bien aimé danser, et j'ai toujours bien aimé être la petite diva en moi. Et donc, en arrivant à Angers et en voyant le collectif drag, j'étais en mode, mais c'est bien sûr, c'est ça, je vais pouvoir lier mes petites passions, make-up, mes passions de danse, de chant et tout ça, et mettre tout ça sur scène et rendre ça queer et politique à des moments.
Horizon, un mardi par mois sur le 103FM de Radio Campus Angers.
Donc aujourd'hui, on l'a dit, tu vis à Angers.
Oui.
Tu as la pratique du drag show. Est-ce que tu peux me dire quels horizons t'a apporté le drag show dans ta vie?
Oui. Je pense que ça m'a apporté beaucoup de liberté de tester plein de choses. Il y a aussi la WIC, du coup, qui est devenue d'un collectif, une association, qui a pas mal évolué. Je trouve que c'était un aspect important. Je ne sais pas trop vers où ça va aller pour la suite, parce que comme c'est quand même lié à l'école... Enfin, on s'est créé à l'école, donc peut-être que je bougerai de ville, peut-être qu'il y a des gens qui vont diplômer, qui vont bouger, donc on ne sait jamais trop comment ça va se passer. Mais en tout cas, pour l'instant, la WIC existe, le collectif existe. On a accueilli un nouveau membre qui s'appelle Iris. Pour l'instant, c'est son nom de drag. Et on a fait plein de shows, on a créé plein de trucs, des liens avec des assos aussi, le refuge à Angers. C'est vraiment très, très chouette. Et je trouve que c'est... Moi, en tout cas, ça m'a vachement aidée d'avoir ce groupe-là qui te soutient, le fait d'être ensemble, parce qu'au début, c'est quand même très stressant de monter sur scène. D'avoir des gens qui te font des retours, qui te soutiennent, de faire des projets ensemble, de rigoler ensemble. Et je dirais que ça a aussi petit à petit apporté ces sujets-là dans mes projets artistiques, Ça m'a aussi donné une certaine confiance en moi, bon, toute relative suivant les moments, mais sur lire des textes, la prise de parole, exister en public. Et voilà. Je dirais que ça m'a apporté ça. Je sais que j'avais noté aussi que ça m'a... Comment dire ? C'est un peu un des trucs où j'arrive encore à pas trop me poser de questions d'un point de vue créatif et à me dire que je fais pas trop de la merde et à me faire vraiment plaisir sur j'ai envie de faire ça, ça me fait rire, ça marche bien, je vais le faire. Et ça donne je sais pas comment dire, un boost créatif à des moments ou un endroit où je peux tester plein de trucs et plein de choses un peu crafty. Et c'est vraiment très chouette. Voilà, voilà.
Vous avez des scènes de programmer ?
Moi, j'ai une scène en mars à Nantes avec ces Pateta Drag qui organise ça. Je me souviens plus, shame on me, du nom de la soirée. Mais c'est quoi ? C'est le 28 mars. 28 mars. Et sinon, je pense qu'on aura une... Là, on a du mal à trouver un lieu pour avoir des scènes régulières. Donc, peut-être des petites choses à l'école. On aimerait bien lancer un ciné-club queer. Et sûrement une scène en mai, qu'on essaye d'organiser, de trouver un lieu un peu cool. Donc, voilà. Et sinon, je dirais, petit indice quand même, aller chez la psy et me rendre compte des difficultés scolaires et aussi avoir des choses positives, ça apprend à être quand même indulgent envers soi. Donc je dirais que c'est quand même un truc important, on en a plus trop parlé, mais c'est long, mais ça s'améliore. Donc voilà.
Ok. Et...
Ça, c'est un autre horizon.
Merci. Et enfin, est-ce que tu aurais un conseil à donner à l'enfant que tu étais?
Oui. L'enfant et peut-être l'adolescent aussi. je dirais ne te calme pas, dans le sens, et reste toi-même. Et ne pas avoir honte. Je sais que j'ai eu des moments au début du collège où je me disais que je devais être moins moi, moins bruyant, moins parler de moins de mes intérêts, de choses comme ça. Et ça marche pas trop pour être content dans la vie. Et donc s'autoriser plein de choses. S'autoriser des bizarreries, s'autoriser à aller vers les autres. Voilà.
Tu aurais une petite reco pour nos auditeurs, auditrices ?
Oui, j'ai plusieurs recos, je vais essayer d'aller vite. En BD, Le Chevalier Imberbe de Thamos le Thermos, c'est ma sœur qui me l'a offert. Et le scénario est hyper quali, je vous dis pas grand-chose, mais c'est vraiment super. C'est vraiment bien écrit et il y a de très belles aquarelles, si vous aimez bien les belles illustrations. J'avais pensé la BD Loup de Julien Niel, ça date un peu, mais c'est un classique et je le cite tous les jours dans ma tête. Et ça m'a vachement accompagnée, donc ça, c'est super. Et en musique, parce que je me dis quand même, on est sur un petit podcast radio. J'avais jamais écouté les albums de David Bowie, je connaissais les tubes et les trucs les plus connus, et en fait j'ai écouté les albums et c'est super, c'est vraiment super. Donc The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, à écouter en entier, c'est vraiment top. Voilà, voilà.
Trop bien, merci beaucoup Lou.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode, à bientôt, au revoir.
Merci.
C'est fou. Merci d'avoir écouté Horizon. Tu peux retrouver l'épisode sur le www.radiocampusangers.com ou sur les plateformes d'écoute. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.